au 01 45 24 7000 avec d'abord Martial de Limoges. Bonjour Martial.
Oui, bonjour France Inter, bonjour Monsieur Cohen, bonjour Monsieur de Villepin.
Bonjour.
Ma question est très simple, Monsieur le Premier ministre. Que pensez-vous de du rôle de la France qui est vraiment de plus en plus mineur, alors que lors de votre discours à l'ONU en 2003, c'était vraiment très intéressant. On avait vraiment dit non à une guerre dont on connaît au mesure les conséquences aujourd'hui. Que pensez-vous de ces va-t-en-guerre, y compris les chefs de l'État actuels et précédents, qui poussent vraiment derrière les Américains contre la Russie, avec toutes les conséquences extrêmement graves? Est-ce que vous pouvez me répondre, monsieur?
Je pense, comme vous, que la France aujourd'hui est à contresens et à contre-histoire. Elle n'est pas dans le rôle ni la vocation qui devrait être la sienne, ce qui explique, à mon sens, une grande partie du malaise français et de la mise en cause d'une certaine fierté française. Quand nous regardons le monde, nous sommes mal à l'aise et nous ne sommes pas fiers ni de ce que nous faisons, ni de ce que nous sommes. Et je crois que la vocation de la France, c'est de servir de médiateur, de nourrir le dialogue, de faciliter la recherche de solutions, beaucoup plus que de rajouter des tensions et de s'inscrire elle-même dans des logiques de guerre. Si on prend les exemples de crises les plus graves aujourd'hui sur la scène mondiale, que ce soit en Afrique et au Moyen-Orient, la France a un rôle à jouer dans le cadre de la définition d'une stratégie politique, d'une stratégie humanitaire. Nous voyons bien, pour prendre le cas de la Syrie, que le problème essentiel, c'est d'arriver à nouer des fils entre les grandes puissances régionales. Je pense à des pays comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Iran, comme la Russie, comment faire en sorte que l'ensemble de ces États puissent arriver à surmonter les conflits qui les opposent pour des raisons religieuses, géopolitiques. La France a un rôle à jouer et c'est ce travail-là, ce travail de la paix qui me paraît être beaucoup plus important et beaucoup plus le nôtre que celui de surenchérir et d'être à la pointe des combats, ce qui n'est une fois de plus pas le rôle ni la vocation de la France et qui par ailleurs nous expose considérablement sur la scène mondiale.
Mais je reviens à ma toute première question que je vous posais à 8h20 quand je vous disais est-ce que c'est parce que vous n'êtes plus au pouvoir que vous pouvez tenir ce discours? Est-ce que le dirigeant d'une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, peut proclamer que tout vaut mieux que la guerre et qu'il n'entreprendra aucune intervention armée, aucune intervention extérieure?
Je crois que aucune intervention extérieure qui ne soit pas au service d'une stratégie politique concertée et soutenue par la communauté internationale.
Oui, mais vous n'en citez aucun exemple dans le livre.
Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous ne menons pas ce type de guerre. Nous aurions pu, au Mali, intervenir dans le cadre d'une véritable stratégie politique qui recompose la vie malienne et qui permette de reconstruire l'État malien. Ce n'est malheureusement pas le cas. À chaque fois, nos interventions sont des interventions ponctuelles qui ne règlent rien. Mon souci aujourd'hui, c'est de prendre en compte ce qui crée le problème. Regardez la Syrie. La Syrie est un État failli. Demain, nous prenons Raqqa. Quelle stratégie vis-à-vis de la Syrie? Est-ce que c'est pour organiser une partition de la Syrie? Est-ce que c'est pour, au contraire, essayer de recréer un État syrien? Quel message adressons-nous à la communauté sunnite syrienne? Quel espoir peut-elle avoir demain dans le cas de la liquidation de l'État islamique? Qui soutiendra et défendra son intérêt? Comment sera pris en compte sa voix dans la communauté syrienne? Ces questions-là, nous ne nous les posons pas aujourd'hui. Et nous serons bien démunis et bien désarmés quand nous devrons demain nous les poser. Je préférerais que la question humanitaire sur Mossoul et sur Raqqa, que la question politique sur l'avenir de l'Irak et l'avenir de la Syrie soit posée avant, que nous ayons une stratégie concertée, que nous nous soyons mis d'accord avec l'ensemble des États qui aujourd'hui interviennent ou soutiennent l'intervention. Ce n'est pas le cas. Ce travail de la paix n'est pas fait. Et donc, demain, nous serons désemparés devant la montée d'une autre organisation terroriste qui se substituera à l'État islamique. Nous serons désemparés devant les affrontements entre les communautés qui auront pris Mossoul ou qui prendront Raqqa. Et de la guerre sera rajoutée à la guerre de façon bien inutile et nous n'aurons pas progressé. Donc, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un État qui soit capable, lui, avec le recul, avec l'expérience, qui est notre expérience. Ne l'oublions pas, nous sommes sans doute le pays au monde qui a le plus d'expérience de la guerre, des interventions militaires, et ce depuis la nuit des temps. Nous avons donc quelque chose à dire et quelque chose à faire, mais je ne crois pas que ce soit par le biais d'interventions militaires stricto sensu. Par ailleurs, je suis convaincu qu'il faut redessiner la forme des interventions militaires, inventer de nouveaux types d'interventions militaires. Comment fait-on pour faire de façon moderne de l'interposition? Comment fait-on pour imposer une paix en milieu hostile, comme nous avons dû ou essayé de le faire et pas réussi?
Il manque de réflexion sur la stratégie, sur la tactique.
Oui, quel type de format militaire? Comment est-ce qu'on met en place une zone d'exclusion aérienne? Dans le cas de la Libye, on a voulu le faire, on a eu énormément de mal à le faire. Comment fait-on pour mettre en place des scénarios d'intervention militaire qui aient pour objectif la paix et non pas simplement l'écrasement d'un adversaire, ce qui, en général, ne permet pas de construire la paix. Quand nous avons voulu intervenir en Syrie à plusieurs reprises, à chaque fois l'armée est arrivée avec des exigences de modèles d'intervention que nous ne pouvions pas satisfaire. Il faut arriver à établir un dialogue, à préparer avec nos armées des formats d'intervention qui soient plus en rapport avec les objectifs de paix que nous cherchons.
Une question d'auditeur encore. Michel, qui nous appelle de Marseille. Bonjour Michel.
Bonjour Patrick, bonjour Monsieur le Ministre des Affaires étrangères.
Nous vous écoutons.
Où dois-je vous appeler maître? Je ne sais plus trop.
Non, ni l'un aujourd'hui, ni l'un ni l'autre.
Non, de Luc de Villepin n'est plus avocat.
Citoyen français.
Oui, non, mais je l'appelle par respect,
votre question, Michel.
On va dire, quand il s'est inscrit dans cette opposition à l'intervention américaine, donc je dirais que pour ça, on le salue. Et moi le premier, mais c'est pour ça que je posais ma question à tiroir, où dois-je vous appeler maître aujourd'hui, si vous êtes...
Non, je ne suis plus avocat.
Vous n'êtes plus avocat, d'accord. Non, ok, non. Bon, bah écoutez, autant pour moi, excusez-moi pour la...
On va dire le décalage. Donc la question...
Dans l'information dont je disposais. Donc ma question, elle est toute simple. Pourquoi cette indignation si sélective, que vous ne reconnaissez pas à d'autres, dont peut-être votre serviteur, interlocuteur, Patrick Cohen, qui vous a gentiment invité ce matin, et que je remercie de...
Je remercie aussi.
De prendre ma question. Donc pourquoi cette indignation si sélective? Ça, c'est la question de départ, qu'il a d'ailleurs évoqué lui-même aussi en réagissant à vos propos. Et est-ce qu'elle traduirait pas, quelque part, je suis désolé de le dire, une inféodation à une puissance telle que l'Empire russe la représente aujourd'hui, c'est peut-être le seul d'ailleurs, et qu'on lui envie quelque part, mais qui est une puissance, pas seulement militaire, mais aussi une puissance financière. En gros...
Vous interrogez le point de savoir si la parole de Dominique de Villepin est indépendante ou pas.
Oui, je vous rassure, elle est totalement indépendante et mon indignation n'est certainement pas sélective. Elle veut être positive, c'est-à-dire comment fait-on pour faire avancer les choses et trouver des solutions et non pas simplement nous faire plaisir par le jeu d'indignation morale qui ne font pas malheureusement avancer le débat. J'aimerais comme vous pouvoir empêcher les bombardements, le massacre d'enfants, les écoles qui sont visées ici et là, en Afghanistan, en Syrie, en Afrique et ailleurs.
Parfois la pression des opinions publiques peut faire bouger des dictatures ou des régimes autoritaires.
Malheureusement, M. Cohen, ce n'est pas mon expérience.
Ça n'est pas arrivé par exemple pour le Vietnam contre les Américains dans les années 60?
Contre les Américains, oui. Contre des démocraties, oui. Voilà. Ce n'est pas le cas dans le cas de la Russie, au contraire, qui bénéficie d'un soutien populaire extrêmement grand et qui, plus vous l'attaquez et plus les Américains veulent pratiquer une politique de containment, plus il y a un raidissement de la puissance russe. Et de la même façon, d'ailleurs, quand les Américains veulent pratiquer une politique de containment vis-à-vis de la Chine, il y a un raidissement du pouvoir chinois. Donc ce n'est pas la bonne stratégie, ce n'est pas comme ça que vous ferez avancer la recherche de solutions, ce qui est notre objectif commun. Quant à la féodation, je serais évidemment, je suis ravi de démentir la question. Ma parole est libre et indépendante vis-à-vis de tout État. J'ai multiplié les démentis, puisque certains l'ont évoqué vis-à-vis d'autres États. Mais malheureusement, c'est en vain, parce que en France, la logique de soupçon, comme la logique d'indignation, est systématique. Donc je le refais une nouvelle fois en espérant vous convaincre.
Une question de Bernard Guetta.
Les interventions militaires ne résolvent rien en elles-mêmes. Le Mali en est la preuve. Vous avez raison sur ces deux points. Mais pour autant, est-ce qu'il ne faut pas recourir à l'arme militaire quand il y a une situation d'urgence? Bamako, la capitale du Mali, allait tomber aux mains des djihadistes. On a empêché cela. Je crois que c'est quand même assez positif, même si, et encore une fois, vous avez totalement raison sur ce point, ça n'a pas résolu les problèmes fondamentaux du Mali et encore moins de l'ensemble du Sahel.
mais vous allez tout à fait dans mon sens, qu'une intervention militaire ponctuelle, et je le disais tout à l'heure pour le Tchad, nous avons effectué de nombreuses opérations militaires extrêmement courtes, brèves, visant à stopper une attaque, une initiative sur une capitale africaine, nous l'avons fait dans le passé. Ça ne justifie pas Dominique forcément...
Pardonnez-moi de vous couper, mais de vous couper de... Oui. Vous avez condamné l'intervention au Mali, vous aviez tort.
Non, j'ai condamné l'intervention militaire au Mali telle que nous l'avons mise en œuvre, c'est-à-dire une intervention...
Il y avait 48 heures pour la mettre en œuvre.
On aurait fait une intervention aérienne sur le raid qui se faisait sur Bamako, j'y étais favorable. J'y étais favorable à chaque fois que ce type de déstabilisation était mis en place. Ça ne justifie pas la mise en place d'une intervention militaire lourde qui nous met dans la main d'un gouvernement et qui ne nous offre pas la mise en place d'une stratégie politique. Donc une fois de plus, c'est à chaque fois l'intervention militaire pour l'intervention militaire que je condamne quand elle est privée d'une vision politique. J'insiste là-dessus, nous ne faisons plus de politique. Nous n'avons plus de projet politique et notre diplomatie, elle avance à reculons. Et d'ailleurs, souvent, on le voit, le Quai d'Orsay est marginalisé dans la gestion des crises par le ministère de la Défense. Et on voit même à l'Élysée le conseiller diplomatique qui n'a guère son mot à dire et qui laisse la place au chef d'état-major du cabinet particulier du président de la République. C'est ce système où le bouton militaire l'emporte sur tout le reste, alors même que nous sommes des démocraties. Et il n'y a même pas de débat au Parlement. Et l'opposition générale ne dit rien, tout simplement parce qu'elle est indifférente à ces questions et qu'elle préfère privilégier ses coups sur le front intérieur. Donc, dans une indifférence absolue, nous sommes entraînés dans des engrenages militaires et des interventions devant la somnolence d'une opinion publique qui ne connaît pas les tenants, les aboutissants et qui, effectivement, a le sentiment que nos armées s'illustrent dans la défense d'un certain nombre de territoires. Malgré tout, à chaque fois, les opinions publiques, y compris dans les pays où nous croyons intervenir de façon glorieuse, se retournent contre nous.
C'est pas le cas au Mali.
C'est fini.
Ce sera le cas demain dans l'ensemble du Sahel si nous continuons dans cette voie.
À vous écouter, Dominique de Villepin, on se demande si vous ne préférez pas un isolationniste comme Trump à interventionniste comme Hillary Clinton.
Monsieur Cohen, c'est que vous n'avez pas du tout compris le message que je voulais faire passer. Je suis pour des stratégies politiques imaginatives, offensives et créatives. Et je crois que les démocraties sont fortes quand elles ont un projet. Malheureusement, nous n'en avons pas. Nous ne défendons pas autrement que par la guerre par les interventions militaires nos valeurs.
Trump ou Clinton ?
Mais une fois de plus, vous connaissez la réponse, donc je ne m'abaisserai pas à avancer dans ce sens. Il est évident que pour moi, il faut, à la tête de la plus grande puissance mondiale aujourd'hui, une personnalité raisonnable et modérée, et c'est le cas, je l'espère, de Mme Clinton, même si son prisme interventionnisme s'est manifesté à de nombreuses reprises, et personnellement, je le regrette.
Dans une minute, on va accueillir Augustin Trapenard et retrouver Frédéric Becbédé.